gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à tous, 22h, 23h, la causerie sur Radio Canu, hein, vous êtes là normalement, 102.2, la plus rebelle des radios. Ce soir donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a autour de la table et dans le studio, hein? Quelle question très importante et vitale on se pose tous. Clara, à la technique?
Bonsoir.
Parfait. Fab?
Salut.
J'adore faire ça. Et Jean-Yves.
Bonsoir. Et Stan qui nous fait cette ouverture en pleine forme.
Toujours, toujours. Tu sais, je vais bien, je suis en forme, en pleine santé. Aujourd'hui, tout se passe bien.
Je voulais juste donner une petite info comme ça avant qu'on démarre vraiment. C'est que le titre avant la causerie là, que vous venez d'entendre super long et que vous n'avez pas pu entendre la fin, bah, c'est Inagada Davida du groupe Iron Butterfly.
Je crois que tu le dis à chaque fois qu'on l'a avant la causerie.
Ben voilà, c'est tout. Je passe des infos. Qu'est-ce qu'il y a?
On le mettra sur le blog. Donc, bah déjà la causerie, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur les blogs de Radio Canu, ou alors directement sur
blogs.radiocanu.org/la causerie. C'est ça que tu voulais?
Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Il me semble. Hein. Tu sais, je pose toujours la question, mais derrière, moi, je sais pas vraiment ce qui va être annoncé, tu vois. On peut aussi nous contacter par mail, il me
mais
semble.
Bien évidemment, à la causerie canu, tout attaché et en minuscule, donc, lacausericanu@gmail.com.
Et petit kiff perso, on peut aussi nous contacter par téléphone.
Par téléphone? Ah, moi, j'ai pas le numéro.
Ah, moi non plus.
Donc on peut pas nous contacter par téléphone. Quelle tristesse ce soir. Mais vous pouvez aussi nous voir et nous écouter. Pas nous voir, mais nous écouter en tout cas. Ouais. Bah, via Facebook aussi.
Ah oui,
on est présent,
ça,
sur,
ouais.
Facebook. Oui, on est présent sur Facebook. Bah, la causerie, hein, sur Facebook, c'est en particulier.
Ah, la causerie Canu, par exemple.
La causerie Canu, sinon, sur Facebook.
Sinon, c'est un resto. Oui, c'est
un... Ouais, ou un groupe de paroles protestants aussi. Ouais. Donc, plutôt la causerie Canu.
On peut confondre entre les deux. C'est vrai que je pense qu'on peut se laisser avoir pendant 20 bonnes minutes. Ouais. Les sujets sont assez identiques.
Bah, clairement, ouais.
Est-ce que j'oublie quelque chose?
Non, tu as tout bien dit.
Ouais, fait bah juste de relâcher le micro à un moment donné.
Mais... Non, mais non, on a dit que les sujets sont courts, tout ça, donc on peut parler un petit peu, c'est pas trop grave. Donc, non. Jean-Yves, ce soir, tu commences.
Ouais.
Et tu nous parles d'armement.
Oui.
Wouhou, c'est toujours joyeux, l'armement, de toute façon.
Oui, moi, j'aime bien les armes. Souvent assez joyeux, je crois, d'ailleurs.
Ouais.
Oups, pardon.
On nous dit toujours ça.
Qui fait un peu de bruit. Alors, eh ben ouais, ce soir, je vais vous parler en fait d'un rapport en fait qui a été fait par le CIPRI. Alors, c'est Stockholm International Peace Research Institute. Donc l'institut de Stockholm pour la recherche pour la paix. À peu près. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend, hein? Donc, c'est sorti le 12 mars, hein, donc, et bah, déjà, c'est que la tendance à la hausse amorcée au début des années 2000, eh ben, elle se poursuit, hein. Donc, je vais donner une petite précision. C'est quand je vais vous parler, là, souvent, je vais vous citer des périodes d'une durée de 5 ans, c'est-à-dire 2008 à 2012, ou la plus récente des recherches, c'est 2013 à 2017. Donc c'est juste que vous sachiez que, en fait, cet institut fait toujours des recherches sur 5 ans pour justement pouvoir avoir un peu plus une vision réelle à long terme, etc., des vraies tendances, on va dire. Ça fait bizarre en parlant d'armement, mais en tout cas, si des tendances à la hausse ou à la baisse.
Ouais,
en
des
tout cas,
statistiques, quoi, pour que ça veut dire quelque chose, quoi.
C'est ça. Alors, on va commencer par. On parlera majoritairement des exportateurs, des pays exportateurs d'armes. Et dans ce cas-là, en tout cas dans la période 2013-2017, eh bien, les États-Unis représentent 34% du total des exportations mondiales d'armes. Ce qui est vraiment bien. Parce que quand même, par rapport à la période 2008-2012, eh ben, il y a un bond de 25%.
C'est bien.
C'est génial, hein. 25% de plus d'armes qui sont vendues, donc exportées par les États-Unis. Hein. Elles sont supérieures sur cette même période, hein, 2013-2017, de 58% par rapport à la Russie, nommé Russie, est le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, hein, donc sur cette période. Et il faut savoir que les États-Unis ont fourni des armes majeures à 98 États, donc toujours sur cette période 2013-2017. Donc voilà, et ce qui est intéressant justement dans ce rapport, ce qui est rapporté... toutes ces choses-là, en fait, c'est que sur la base d'accords signés sous l'administration Obama, les livraisons d'armes américaines en 2013-2017 ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin des années 90.
C'est pas mal pour un prix Nobel de la paix.
C'était exactement la remarque que je me faisais.
On m'a toujours vendu Obama comme un mec cool et sympa.
C'est exactement ça.
Mais non, zut alors.
C'est pour ça que je voulais relever cette petite chose, parce que je trouve que justement c'est intéressant de dépasser toujours ces images qu'on peut avoir des présidents, hein, qu'ils soient lointains ou qu'ils soient même plus près. Hein. Bah en fait, non, ça reste des vendeurs d'armes.
Je pense que le nouveau président en Russie va être plus soft.
Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et alors on passe donc à la suite. Hein, donc les États-Unis en première position, youpi. Et les exportations, comme je vous disais, de la Russie, eux, ont diminué. Enfin, elles, les exportations, elles ont diminué de 7,1%. Ouais, ça tire un peu la gueule quand même.
Alors ouais, sauf que c'est à corréler avec le fait que la Russie a lancé 3 guerres dans cette période-là. Donc ils ont forcément plus produit pour eux que pour l'export.
Ah oh, voilà, tout de suite.
Là, oui. Comme ils jouent sur les chiffres tout le temps, Jean-Fab, c'est affreux.
Eh oui.
Non mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes qui sont produites.
Non,
ça veut dire qu'on n'en exporte pas.
Ah oui, on parle des
exportations. Vu que dans la même période il y avait l'Ukraine, la Syrie et encore une fois la Tchétchénie, on imagine quand même bien que les armes ont été massivement utilisées. Malheureusement.
Effectivement, tu veux bien de le rappeler qu'on parle bien d'exportation, hein, des armes. Hein.
Et c'est-à-dire ce qui économiquement rapporte au pays.
Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, on en arrive à la troisième position. Et là, c'est super parce que c'est la France. Tu l'aimes, la France? Eh bien, la France est donc troisième en exportation d'armes. Hein, et il faut quand même savoir... que les exportations d'armes ont augmenté entre ces deux périodes, donc 2008-2012 et 2013-2017, de 27%. Youpi, vive la croissance! Et donc, effectivement, elle est troisième exportateur d'armes au monde dans cette période de 2013 à 2017.
Et évidemment, en tant que nation des droits de l'homme, nous ne vendons pas d'armes à des pays qui feraient la guerre.
Absolument pas.
Non.
Ouais, tu t'en doutes quand même, enfin.
Genre l'Arabie Saoudite, tout ça, non?
La France a une éthique, enfin.
C'est que pour tondre les pelouses, il me semble.
C'est ça. C'est... Ah, mettons de la pelouse ou au mitrailleur.
Ou AK-47, ça marche.
C'est vraiment génial, quoi. Et donc voilà, et donc on arrive à la quatrième position. Et là, la quatrième position, c'est l'Allemagne qui... Alors là, quand même, déception, hein, ça a diminué de 14% entre les deux périodes d'analyse, donc 2008-2012 et 2013-2017. Cependant, quand même, les exportations d'armes de l'Allemagne vers le Moyen-Orient ont augmenté de 109%.
C'est... Ah, bah nous voilà rassurés.
C'est... Oui, attention, hein, faut... oui, c'est quand même plein de bonnes nouvelles pour la croissance, d'une certaine manière. Donc voilà, donc, ce que rapporte encore ce rapport, c'est que peu de pays en dehors de l'Allemagne, de l'Amérique, pardon, du Nord et de l'Europe sont de grands exportateurs d'armes. La Chine, elle, est en cinquième position d'exportation d'armes donc dans cette période 2013-2017. Elles ont augmenté depuis le dernier rapport de 38%, ce qui est quand même pas rien.
C'est énorme, mais ce qui est surtout inquiétant, parce que la Chine a passé des années à armer en interne, donc ça veut dire qu'aujourd'hui elle a suffisamment armé en interne pour commencer à exporter.
Ah bah oui.
Et c'est terrible pour les populations chinoises, parce qu'en général, quand il y a beaucoup d'armes sur un territoire, c'est pas pour la paix et la liberté. Hein.
Et alors justement, les clients de la Chine sont le Pakistan, principal bénéficiaire, et les exportations vers l'Algérie et le Bangladesh ont fortement augmenté au cours de cette période. Et Israël 55%, la Corée du Sud 65% et la Turquie 145% ont sensiblement accru leurs exportations d'armes, donc justement de tant de pourcents que je vous ai annoncé entre les deux périodes 2008-2012 et 2013-2017. Donc voilà, donc c'est plutôt plein de superbes bonnes nouvelles pour ceux qui aiment la guerre, les armes
et la croissance économique,
bien évidemment, c'est le trio de tête. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux encore rajouter, c'est que oui, ça c'est quelque chose qui est relevé dans le rapport, merci. C'est les conflits violents généralisés au Moyen-Orient et le respect des droits de l'homme ont conduit à un débat politique en Europe occidentale et en Amérique du Nord sur la limitation des ventes d'armes. C'est un des gars du CIPRI qui dit ça. Il dit pourtant, les États-Unis et les États européens restent les principaux exportateurs d'armes dans la région et ont fourni plus de 98% des armes importées par l'Arabie Saoudite.
Mais ça rappelle un peu la ministre des Armées, là dont j'ai perdu le nom et puis on s'en fout un peu, qui disait en fait, nous, quand on a vendu nos armes à l'Arabie Saoudite, elle nous a promis qu'elle les utiliserait pas dans son conflit au Yémen. Je trouve ça juste génial que, en fait, il suffisait donc une promesse, hein, vous imaginez ? Non, mais promis, hein, tu me vends des avions avec des missiles, mais promis, je m'en servirai pas. Enfin, c'est surréaliste. Et ça suffit comme garantie. C'est là qu'on voit le ridicule du truc, quoi.
Ah bah oui, et puis on se rend compte aussi que derrière les beaux discours, les grandes intentions,
c'est que de la parade, quoi.
Bah c'est juste, c'est juste de la parade et c'est toujours business avant tout. Parce que si vous allez contredire ces gens-là, ils vous diront, oui, mais si c'est pas nous qui vendons les armes, ce sera un autre. Bah ouais, et alors en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, si on veut vraiment avoir une forme d'éthique, c'est peut-être ça commence par là, c'est-à-dire refuser des parts de marché, en fait.
Mais nos armes, elles tuent, elles font moins mal.
C'est ça. C'est ça.
Elles tuent mieux et plus vite.
Non, mais je suis sûr qu'il serait capable de sortir un truc comme ça. Hein. C'est ça. Même pas peur. Hein.
Et donc on a vu pour le deuxième importateur d'armes au monde, c'est l'Arabie Saoudite, donc avec une augmentation des importations de 225%.
Et une augmentation des guerres aussi.
C'est peut-être en lien effectivement avec ce que tu disais, avec le nombre de guerres dans lesquelles l'Arabie Saoudite
Soit est partie prenante, soit fournit énormément d'armements, parce que aujourd'hui on sait que l'Arabie Saoudite fournit beaucoup d'armes aussi pour des guerres déportées, c'est-à-dire c'est pas elle officiellement, mais bon, elle donne les caisses, quoi.
L'autre, les importations d'armes aussi de l'Égypte, qui est quand même troisième plus grand importateur sur cette période 2013-2017, et je le rappelle comme ça en passant, premier client de la France, l'Égypte, ça a augmenté de 215%. Donc c'est cool. Là aussi, hein, on sent bien que l'arrivée du général Al-Sisi pour contrer les méchants religieux au pouvoir a été... Waouh.
Quand tu instaures une démocratie militaire...
T'es tranquille. Attends. Donc, voici pour l'Égypte. Et on a aussi les Émirats Arabes Unis qui est le quatrième plus grand importateur. Et tandis que le Qatar, 20e plus grand importateur d'armes, a augmenté ses importations d'armes et a signé plusieurs contrats importants au cours de la même période. Donc voilà, hein, donc c'est quand même assez sympathique tout ça. Après, il y a encore plein d'autres infos, mais vraiment, enfin, je veux pas tout vous donner parce que ça a beaucoup de chiffres. Ce que je veux peut-être quand même terminer, c'est vous donner les autres évolutions notables qu'a relevé donc cet institut suédois. C'est que déjà, les importations d'armes par les États africains ont diminué de 22% entre les deux périodes. Ce qui est plutôt bien. On peut toujours se satisfaire que ça diminue quand même.
C'est aussi lié au fait qu'il y ait moins de conflits armés sur le continent africain, et c'est pas une mauvaise nouvelle, quelque part.
Oui, mais complètement. Non, quand même, c'est comme tu dis, c'est bon. C'est que moins 22%, tout ça, ça reste une bonne nouvelle dans l'idée. Quoi.
Ouais, vu tout ce qu'on vient d'annoncer, les hausses qui dépassent les 100%, les 200%, j'ai envie de dire une baisse de 22%, ça savoure quand même, vous voyez. Donc, par contre, parce qu'il y a une autre mauvaise nouvelle derrière, c'est les importations d'armes du Nigeria ont augmenté de 42%. Donc vous voyez, hein, comme quoi les joies sont toujours très courtes. Et aussi, le total des importations d'armes par les États des Amériques ont diminué de 29% en 2013-2017. Donc toujours par rapport à la période 2008-2012. Et les importations d'armes du Venezuela ont chuté de 40% entre ces deux périodes.
Il n'y a plus d'argent.
C'est ce que j'allais dire. C'est économiquement, il n'y a plus d'argent au Venezuela, donc ils ne peuvent pas en acheter. Hein.
Ouais. C'est ça.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ce n'est même pas une raison de paix.
Ah non.
C'est juste une raison purement économique. C'est ça qui fait froid dans le dos, quoi. C'est pas genre on a décidé qu'on ferait plus la guerre, quoi. Donc,
ouais. Ah non. Et je termine avec les 3-4 dernières autres évolutions notables. C'est les importations des États d'Europe, ont diminué de 22%.
Bah, vu qu'on les produit, c'est logique.
Et les livraisons d'avions de combat avancés des États-Unis feront augmenter les volumes d'importation au cours des prochaines années. Donc t'inquiète pas, ça va remonter. Et en 2013-2017, la Chine assure 68% des importations d'armes du Myanmar, suivie par la Russie de 15%. Et on peut aussi parler de l'Indonésie qui a augmenté ses importations d'armes de 193%.
Ce qui est quand même pas du tout bon signe vu ce qui se passe dans la région.
Donc voilà, et on a le 6e plus grand importateur d'armes au monde. Et ben tiens, je vais vous laisser chercher. Vous pensez que c'est qui le 6e plus gros importateur? Et ben moi franchement je pensais pas. Et ben c'est l'Australie.
Bah ouais. Ah oui, c'est surprenant, ouais.
Bah moi j'étais très surpris en fait, parce que pour moi l'Australie c'est une grande terre avec pas mal de déserts et des gens sympas à peu près, mais en fait non, parce que faut pas oublier quand même qu'il y a l'extrême droite qui est pas loin, je crois aussi.
Peut-être
là-bas.
Qu'ils essaient de se défendre contre les animaux mortels sur place.
Non, je crois surtout que c'est quand même, une zone géographique et géopolitique qui est pas loin quand même, enfin si on monte un peu dans le nord de l'Australie.
Clairement on va vers la Corée.
C'est la Chine, etc. Et faut savoir quand même qu'il y a eu plusieurs pressions autour de bateaux, etc. dans les différentes eaux territoriales là-bas, et je pense que le climat est un petit peu tendu. Pardon, tu l'as terminé.
Non, mais je voulais dire, ce qui est marrant, parce que tu as deux chiffres que tu as donnés qui finalement se répondent. C'est-à-dire que l'Indonésie qui importe énormément d'armes et l'Australie qui importe énormément d'armes. Si vous regardez une carte, en fait, en réalité, vous êtes dans la même région.
Il y en a un au sud, voilà. Et l'autre au nord.
C'est-à-dire que c'est là qu'on se dit que c'est en train de se tendre énormément dans cette région-là du monde, et qu'en fait, on en parle très peu. Sauf que, on voit bien qu'il y a malheureusement une préparation de conflits armés lourds qui risque d'arriver. Parce qu'on n'importe pas des armes juste pour le plaisir.
C'est sûr.
C'est rare quand même.
De toute façon, on peut se souvenir que il y a plusieurs infos qui avaient circulé sur le fait que effectivement, il y a des tensions entre le Japon, la Chine, les Corées, etc. Il y a eu pas mal d'embrouilles autour de bateaux chinois dans les eaux territoriales japonaises, etc.
Et repousser les migrants aussi, ce qui est horrible. C'est-à-dire que l'Australie se donne le droit de tirer aujourd'hui sur les bateaux qui approchent de ses côtes.
Ah oui, mais l'Australie, oui.
Donc voilà, non, mais on voit quelle est la logique de guerre qui se met en place. Parce que quand on commence à tirer sur des bateaux, c'est une guerre, hein, ça porte un nom. Hein,
Oui, après on peut le faire soi-même ou on peut le déléguer à d'autres puissances comme le fait l'Europe.
Ça reste des actes de guerre,
ça ressemble à peu près à la même chose.
C'est vrai.
Quoi, payer d'autres pays pour pas que les migrants passent, etc. C'est pas. Ah, d'accord.
Je crois que ça se fait aussi. Donc j'espère que c'était pas trop brouillon pour vous, mais en tout cas, intéressez-vous à ça parce que, effectivement, le business des armes c'est quand même pas rien et qu'encore une fois, est-ce qu'on peut se glorifier d'être dans des pays qui font une belle croissance des ventes d'armes.
D'après Macron, oui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que...
Moi, Macron, je pense qu'il va faire un super chiffre sur les 5 prochaines années.
De toute façon, je part toujours du principe que tout président est VRP des industries françaises, alors que ça se passe dans le nucléaire ou dans l'armement. Donc forcément, ils vont faire des ventes. Hein. C'est quand même un de leurs objectifs. C'est le contrat, ils le signent dans les charges.
Là, on va le voir, il est revenu avec un super contrat d'Inde.
Oui.
Donc il doit y avoir un petit peu d'armement au passage,
oui,
quand même.
Bah oui. Donc voilà, donc guerre à la guerre, toujours et encore, et aussi aux fabricants de la mort, parce que sans armes, les guerres sont un petit peu plus compliquées quand même. Donc voilà, je sais pas si vous aviez autre chose à rajouter.
Non.
Et ben alors, partons pour de la musique. Ah, ouais. Alors, je préfère prévenir, amis auditeurs, auditrices, attention, ça va taper.
Et c'était donc Consommateur de Fricalotech, un groupe d'électro que je viens de découvrir pour l'occasion. Et oui.
Ah bon, c'était l'électro ça?
Alors c'était peut-être un peu plus que de l'électro, peut-être que c'était... Et c'était donc Consommateur de Fricalotech, un groupe d'électro que je viens de découvrir.
Ah bon, c'était l'électro ça? Un peu de la trance quand même.
Voilà, un peu de la trance. No, God!
Là, ça tabasse, hein.
Un peu de la trance quand même.
Voilà.
De la transe quand même.
Voilà, un peu de transe, tout ça.
Ah bon, c'était l'électro ça?
Ah bah ça tabasse, hein. Bah ça tabasse, hein.
Ah bon, c'était l'électro ça?
Oh putain.
C'est l'électro ça? Un peu de la transe quand même.
Free Kylotech style.
Retour donc dans la causerie. Alors, tout le monde n'apprécie pas cette musique dans l'équipe, on va le préciser tout de suite. Mais par contre, en fait, donc l'artiste c'est Fricalotech et le titre c'est Ah bon, c'est de l'électro ça. Et vous aurez pu remarquer, à notre grande surprise aussi, quand on a entendu cette musique, c'est qu'en fait ce sont nos voix, celle de Fab, celle de
Jonathan
et la mienne y compris,
de Jean-Yves donc,
qui sont remixées. Alors on a découvert ça par les joies d'internet, on remercie Caro d'ailleurs qui nous l'a fait découvrir, et on remercie Fricalotech de s'être amusé sur nos gueules, parce que c'est quand même rigolo de se dire quelqu'un a chopé ce son en Bretagne. notre émission qui est faite à Lyon
et alors on va
qui a remixé tout ça.
On va le dire, il a raison, c'était pas d'électro, c'est du bal musette. Et il a parfaitement raison en fait.
On entend l'accordéon derrière. Ouais. Enfin, moi je trouve ça assez sympathique. C'est pour les gens, c'est pointueux comme musique quand même. Ah, c'est vraiment du bal musette de haut niveau.
Ah ben clairement.
Mais voilà.
Ouais, voilà.
Clairement. Et je voulais juste préciser aussi que nous n'avons absolument financé personne. Nous n'avons couru après aucun artiste pour remixer ça. Donc,
mais merci, c'est en juste... tout cas, c'était drôle.
Moi, mais c'est, oui, effectivement, c'est rigolo. C'est... toutes ces...
Non, mais en vrai, c'est quoi comme musique?
Moi, je te dirais. De l'électro. En tout cas, comme dirait. Je ne sais plus. Mais en tout cas.
Il nous écrira, c'est pas ça. Non, mais pour les spécialistes, il me semble.
Mais pour les spécialistes, de toute façon, dans l'électro, il y a 15 milliards de styles, mais comme dans le rock, il y a 15 millions de styles. Moi qui suis un.
Moi je suis une quiche. Hein.
Une quiche dans tout ça, bah, du rock c'est du rock et bah, là c'est de l'électro. Après, si t'as envie de jouer les radicaux et d'aller chercher la racine du truc, je te laisse chercher. Mais moi en tout cas, je classe ça dans l'électro et c'était très rigolo. Eh bien, on continue avec Fab.
Un peu moins rigolo.
Un peu moins marrant parce que bon, bah plus t'es pauvre et.
Plus t'es mort.
Bah ouais.
Eh bah ouais. Alors je vais vous présenter ce soir une étude qui a été faite par l'INSEE. Alors ça m'arrive rarement de présenter quelque chose qui est fait par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Mais comme c'est plutôt bien foutu, même si ça reste critiquable totalement, hein, l'INSEE et le principe de l'INSEE, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est reconnu quand même la fiabilité des données collecté, parce que l'INSEE c'est quand même l'organisme qui collecte le plus de données et généralement il se plante pas trop et surtout bah, en fait ce qui est important c'est d'en tirer les infos, parce qu'après les orientations c'est un autre problème. Alors des conclusions en fait qui font un peu froid dans le dos. Donc le 6 février dernier l'étude c'est la première étude sur la mortalité couplée aux revenus qui a été faite, c'est-à-dire regardez combien de temps vous vivez en fonction de combien vous gagnez. Alors en gros, ce qu'on pressentait est vérifié. Plus t'es pauvre et plus tu meurs. Voilà, c'était exactement le titre. Hein. Donc si la corrélation entre la catégorie socio-professionnelle et l'espérance de vie est statistiquement démontrée, de longue date, l'INSEE a publié pour la première fois ce mardi 6 février une étude importante sur la différence d'espérance de vie selon le niveau de richesse. Alors c'est un peu différent parce que la catégorie socio-professionnelle ne fait pas forcément les revenus que vous avez. Il y a des gens qui ont des bacs plus 8 mais qui sont payés très peu, et des gens qui ont des bacs moins 2 comme on dit, mais qui ont des revenus plus importants. Donc là c'est vraiment ils se sont focalisés sur les revenus, c'est-à-dire les moyens. Alors le verdict est simple, hein, entre les plus riches et les plus pauvres il y a 13 ans d'écart pour chez les hommes. C'est juste énorme, hein.
Niveau mondial? Ou c'est français?
Non, c'est français. C'est français. Ça, c'est vraiment franco-français. Hein. Donc, l'étude, elle porte sur un panel qui est très clair. Hein. L'INSEE a comparé l'espérance de vie des 5% les plus pauvres versus les 5% les plus riches en France. Allez, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Quand un homme gagne plus de 5 800 euros par mois, ça, c'est dans les 5% les plus riches, il atteint en moyenne 84 ans. Et globalement, il est en bonne santé jusqu'à 5 ans avant sa mort. C'est-à-dire jusqu'à 79 ans, il n'a pas de problème de santé majeur. Voilà, qui nécessiterait des soins lourds. Par contre, quand un homme gagne moins de 470 euros par mois, c'est-à-dire les 5% les plus pauvres de France, hein, généralement, comme le souligne l'INSEE, c'est soit des personnes qui sont au chômage, soit des personnes au RSA, soit des personnes à mi-temps, ça représente 5% des Français, donc il meurt en moyenne avant 72 ans, donc autour de 72 ans, et avec une bonne santé seulement 13 ans avant son décès. C'est-à-dire que ce qui est intéressant et qui fait froid dans le dos, à partir de 59 ans, en fait, c'est-à-dire que vous êtes encore au travail, pour ceux qui travaillent, bah vous commencez à avoir des problèmes de santé lourds.
Je trouve que c'est vraiment ça la statistique qui fait peur.
Ouais.
Parce que la première, on s'attendait tous, oui, que
oui,
plus tu gagnes de l'argent, plus tu meurs tard, quoi. Mm. Mais cet écart-là de souffrance, en fait, il est juste impressionnant.
Et c'est ce qui est important de souligner. Chez les femmes, en fait, l'écart est un peu plus faible, il est de 8 ans. Et en fait, ça s'explique par quelque chose d'assez cynique, c'est qu'en fait, les femmes n'étaient pas soumises au travail de nuit ni au travail en équipe jusqu'à hier récemment. Par contre, il a tendance à rattraper celui des hommes du fait que les femmes sont de plus en plus soumises à des métiers coupés, comme par exemple les femmes de ménage qui font des métiers où on commence très très tôt et on finit très très tard et on a une grosse coupure au milieu, et où c'est 90% en féminin. Par exemple, c'est chez les femmes de ménage, l'écart est le même, c'est 13 ans. Vous voyez, on retrouve le même écart. Donc c'est un peu terrible parce que c'est l'égalité à tout prix, comme on dit, n'est pas forcément une bonne idée. Il vaudrait mieux se réfléchir à ne pas faire certaines choses. Voilà, en général,
pour tout le monde,
c'est ce que je voulais dire. On le voit donc, c'est bien le facteur de richesse personnelle, autrement dit de la place dans la société vue du point de vue capitaliste, hein, qui détermine la durée de vie, et c'est pour une fois une étude réellement chiffrée. C'est ça qui est important et intéressant. Alors l'étude, elle va souligner trois facteurs qui entrent en jeu pour expliquer une telle différence. Le premier, c'est le comportement favorable à la bonne santé est plus présent chez les plus riches. Bah oui, parce que tout simplement parce qu'ils ont plus de temps, du fait de la délégation des tâches ingrates à des subalternes. Femmes de ménage et hommes de ménage, cuisiniers, cuisinières, chauffeurs, chauffeuses, gardes d'enfants. Et donc, ça ouvre un peu plus de temps pour pratiquer du sport, aller profiter de la culture, manger sainement. Et d'ailleurs, souvent, ils mangent, c'est ce que souligne l'INSEE, souvent, ils mangent sainement parce qu'on leur fait à manger. Donc, c'est intéressant de voir que c'est la délégation qui permet ça. Le temps de travail est aussi plus faible. Au-dessus de 5 800 € de revenus par mois, généralement, les personnes dans cette catégorie présentent un temps de travail effectif, réel, plus faible que la moyenne. Oui, parce que, en fait, l'INSEE est un peu taquine. Elle compte pas, par exemple, le fait d'aller dîner entre midi et deux pendant 3 heures comme du temps de travail. Même si vous êtes en train de parler de contrat et de vous taper sur l'épaule, voilà, vous mangez. Vous voyez, c'est un peu le truc. C'est pas aussi violent que de faire 3 heures à la chaîne. Mmh. Ouais, pour être clair, ou 3 heures de ménage. Voilà. Soit parce que...
L'effort mental est dur, pourtant.
Voilà, alors, c'est ce qui est dit l'INSEE, l'effort mental ne tue rarement, quand même, globalement. En fait, il y a aussi la notion qu'au-dessus de 5 800 € de revenus par mois, il y a beaucoup de gens qui sont des héritiers, donc ils ne travaillent carrément pas. Hein, ou alors ils sont cadres très supérieurs dans les entreprises et donc ils sont sur plus une représentation de l'entreprise que sur du travail effectif réel. Voilà. Ce temps plus faible laisse aussi du temps pour autre chose. Un indicateur tout simple, les abonnements en salle de sport, c'est 70% des cadres. Voilà, donc ça donne une bonne image un petit peu de ça, et c'est un chiffre qui est dans l'étude. Je trouve que c'est bien, ça souligne bien un petit peu le fait que il y en a de partout, mais on se rend compte que c'est une certaine catégorie socio-professionnelle. Le temps de travail plus faible est aussi un facteur de moins d'épuisement, automatiquement, d'autant plus que les métiers des personnes les plus riches sont bien moins physiques que les personnes les plus pauvres, et donc du coup vous usez moins votre corps, tout simplement. Il y a aussi autre chose, c'est que les personnes les plus riches n'ayant aucun souci à payer pour leur santé, elles présentent une meilleure couverture santé, tout simplement. Et elles ont surtout un meilleur suivi médical en général. Ce qui les expose à plus de prévention et donc une meilleure prise en cause des risques. Et ce que souligne l'INSEE, c'est que ça démontre que la sécurité sociale à elle seule ne suffit pas à corriger les inégalités, même avec la CMU. Parce qu'il y a quand même une médecine à deux voire trois vitesses, et que donc en fait on n'a pas accès aux mêmes choses selon nos revenus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'INSEE se permet de mettre une phrase que j'ai copiée telle quelle. Cela démontre que la sécurité sociale à elle seule ne corrige pas les inégalités totalement, comme on l'entend trop souvent. Vous voyez, donc c'est un peu étonnant, mais elle est telle quelle dans le rapport. Pierre, la privatisation galopante du système de santé explique en grande partie cet écart de soins. Parce qu'en fait, c'est dans le privé que se trouvent généralement aujourd'hui la plupart des médecins qui sont le plus reconnus et la plupart des techniques et de soins les plus à la pointe. Or, le privé devient inaccessible pour les personnes les plus pauvres. Alors il y a quand même un truc, c'est que face à ça, il y a des gens qui ont dit non, mais attendez, c'est pas du tout lié au travail ou au revenu, c'est un problème géographique. Me demandez pas pourquoi, mais ils se sont dit on va trouver ce truc-là. Et alors l'INSEE, elle s'est dit ok, je vais vérifier. Elle a mené en parallèle une étude identique, mais par région. C'est-à-dire s'il y a un problème géographique, on va le voir tout de suite. Alors pourquoi c'est sorti sur le devant? C'est parce que en fait il y a le porte-parole du MEDEF qui a affirmé, a priori sur France Inter, mais j'ai pas entendu, qui aurait dit, c'est le numéro 2 du MEDEF qui aurait dit non mais en fait cette étude elle vaut rien, en réalité on meurt beaucoup moins quand on est au soleil que quand on est sous la pluie toute la journée. Truc un peu surréaliste, hein. Il est bien connu que les Inuits meurent très jeunes. Et c'est assez dingue. Donc en fait, l'INSEE a pris les premiers résultats et les a redispatchés par région et par disparité géographique pour vérifier d'où pouvaient venir ces disparités. Alors en fait, effectivement, si on prend le résultat, c'est vrai. Il y a des régions, par exemple l'Occitanie et les Pays de la Loire, où on vit mieux et plus longtemps qu'ailleurs en France. Voilà. Et l'une des régions où on vit le moins bien en France, où on meurt le plus jeune, c'est les Hauts-de-France. Voilà. Et bien sûr, le MEDEF a sauté dessus pour sortir un communiqué de presse pour dire vous voyez, en fait, finalement, c'est plutôt lié à la région, à ce qu'on mange et à l'ensoleillement. Sauf qu'en fait, quand on sort un petit peu juste des conclusions et puis qu'on lit l'étude, ce que j'ai fait, elle est sur le site de l'INSEE, donc je vous invite à le faire, c'est un peu long, elle fait 60 pages. En fait, c'est pas du tout ça. L'Occitanie est la région où le taux d'emploi des cadres est le plus élevé après Paris.
et les Pays de la Loire où les emplois intellectuels sont les plus nombreux en France. Par contre, les Hauts-de-France, c'est la région où le taux de pauvreté est le plus élevé et aussi où le taux d'emploi dans l'industrie est le plus élevé. Donc en fait, la corrélation est uniquement liée à ça. Elle n'est pas du tout liée au fait qu'il fasse plus beau en Occitanie que dans les Hauts-de-France. Elle est liée en fait qu'on ne fait pas les mêmes métiers selon où on habite en France. Et ce n'est pas du tout, comme le dit l'INSEE, c'est pas du tout une corrélation à faire avec les conditions de vie, la bouffe ou quoi que ce soit. C'est bien encore une fois lié à vos revenus et à ce que vous faites. Et donc ça rejoint ce que dit l'INSEE depuis des années, la catégorie socio-professionnelle et vos revenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, que vous soyez n'importe où en France, ce que vous allez faire dans votre vie a un impact sur la durée de vie. Il y a une autre étude qui a été menée par le CNRS qui démontre qu'avec l'augmentation du chômage, passant dans un chômage de masse, les Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France, c'est bien une baisse de l'espérance de vie qui a été soulignée. C'est lié à trois facteurs, hein, c'est ce que dit le CNRS. C'est lié au fait qu'en fait, la désespérance entraîne généralement vers des conduites dites à risque, alcool, tabagisme ou autre, ça c'est connu. Et puis aussi, le CNRS le souligne, suicide. Parce que les gens qui se suicident comptent comme un mort jeune, donc en fait voilà, du coup ça fait baisser l'espérance de vie. Et ça en fait, comme dit l'étude du CNRS, on n'en tient pas compte, donc, alors qu'on devrait plutôt prendre ça comme un facteur d'aggravation et dire attendez, là on a un réel problème, plutôt que de juste dire ah bah oui, mais c'est comme ça quoi. Alors il y a aussi des facteurs évidents, et ça l'INSEE le souligne aussi dans son étude, c'est la pollution. La concentration d'activités industrielles fait que vous êtes plus exposé à la pollution, ou si vous vivez au cœur d'une grande ville, vous êtes plus exposé à la pollution des automobiles que si vous vivez au fin fond de la campagne. La nourriture, la qualité est moindre quand on gagne moins. Parce qu'aussi étonnamment que ce qui puisse paraître, même quand on va faire les marchés et les fins de marché, bon, on n'a pas les mêmes produits que quand on fait les débuts de marché, qu'on connaît le producteur et qu'on lui tape dans le dos, et que c'est pas la même chose. Puis c'est pas pareil d'acheter en Biocoop que d'acheter à Lidl, hein, voilà, très clair. Et puis ben, le tabagisme aussi, parce que étonnamment, et de façon assez logique, et ça c'est les deux études qui corrèlent les choses, le tabagisme touche en priorité les plus pauvres. Ce qui est assez étrange, mais c'est une réalité. Enfin, étrange non, parce que comme le souligne l'étude du CNRS, c'est un signe de désespérance. Souvent, on tombe dans le tabagisme, soit par habitude familiale, soit par désespérance, parce que, ben voilà, ça permet de tenir, quoi. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'INSEE finit son étude en disant un truc, je vais vous le résumer, qui moi m'a fait sourire, parce que je me suis dit, ben, pour une fois qu'on l'écrit quelque part, rien n'a vraiment changé depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que depuis le début de l'ère industrielle, c'est toujours pareil. Il y a toujours un écart énorme entre riches et pauvres. Au nanti, la longue vie. Au trimard, la mort lente. Ça, c'était un slogan de mai 68. Et donc, vous voyez, bah, il reste toujours vrai 50 ans après. Et donc, il faut se méfier des faux semblants statistiques qui moyennent tout cela, parce que non, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on n'a pas la même espérance de vie. Et c'est pas quand on vous dit à la télé, en France, on vit jusqu'à 84 ans en moyenne. C'est une drôle de moyenne, en fait.
Voilà. C'est une moyenne.
Voilà. Mais elle cache beaucoup de choses, en fait, cette moyenne.
Ah, bah oui, oui, oui.
Voilà.
Eh ben oui, et puis, non, mais ça me fait rire parce qu'en fait, le gars là du MEDEF, il aurait dû regarder la Belgique, l'Angleterre, je sais pas, les pays encore plus au nord. Oui. Ils meurent pas tous comme dans le nord de la France, en fait.
Non, par contre.
Non, mais tu vois,
non, mais oui.
Non, mais je trouve ça d'une.
C'est d'une connerie absolue.
C'est
mais
énorme,
par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui est scruté, notamment par la Commission européenne, enfin, l'étude statistique européenne. C'est la première fois que l'espérance de vie recule au Royaume-Uni et c'est lié. Et exclusivement à l'augmentation de la pauvreté. Mmh. C'est la seule explication. Mmh. C'est-à-dire que vous mettez, rien n'a réellement changé, on mange à peu près la même chose, voilà. Mais l'augmentation de la pauvreté et la dégradation des systèmes de santé entraînent une baisse très très marquée de l'espérance de vie. Voilà.
Ouais, et puis bah, je trouve que le rappel est très bon de se dire que en 1900, ça n'a pas tant évolué que ça.
En 1800, hein,
1800
19e, 19e,
ouais.
Début de l'ère industrielle.
Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on peut se dire, effectivement, on a quand même gagné certaines luttes, etc.
Oui.
On a. Mais.
L'écart reste.
Mais oui, c'est ça en fait.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un peu la théorie des miettes. C'est-à-dire qu'on a récupéré des miettes du gâteau. Mmh. Donc c'est vrai qu'on vit plus longtemps, qu'on a accès à un système de santé qui existe, tout ça. Mais sauf qu'au final, les riches restent toujours largement privilégiés.
Mais non, arrête. Écoute, Macron, il croit dans le ruissellement des richesses.
Ah oui,
donc on ruisselle les miettes jusqu'à nos bouches et on est content comme ça.
Bah, que les premiers de cordée filent un peu des années d'espérance de vie aux gens, ce serait plutôt pas mal en bonne santé, l'espérance de vie.
Non, mais ça explique par exemple comment un gars comme Givenchy peut mourir à 93 ans. Non, mais oui, c'est pas rare qu'on entendre des gens qui ont eu des métiers assez peu physiques et mourir très très vieux, et voilà, enfin c'est ouais. Un exemple.
Ouais.
On prend beaucoup de ministres ou présidents qui
ne meurent pas jeunes.
Qui meurent pas jeunes, quoi.
Non, c'est vrai.
Et on les paye longtemps, d'ailleurs. Musique ?
Eh ben, allons-y.
Et vous êtes de retour dans la causerie tous les dimanches 22-23h sur Radio Canu ou radiocanu.org. Et donc bah, c'était Pink Martini et Saori Yuri, Yuki, pardon, oui Yuki, c'est Yuki ou Yuri ?
Yuki.
Yuki, je me suis perdu avec les noms, pardon. Et donc j'adore ce titre parce que c'est, je trouve que c'est tout ce que j'aime dans la musique quand elle se métisse comme ça totalement avec un groupe qui n'est pas du tout issu du Brésil, qui reprend une bossa nova hyper célèbre avec une chanteuse japonaise en japonais. Voilà, et je trouve ça vraiment chouette. Et ça me permet aussi de faire un coucou aux copains de Muteki Kanu qui est tous les samedis à 9h du matin. Voilà.
J'avance. Ok. Bah, si t'as bon.
Bah, émission sur la culture japonaise, vachement sympa. Voilà.
Ok.
Et toi, tu voulais nous parler.
T'es jamais levé le samedi matin, c'est tout.
Je crois que c'est un peu ça.
Ne dévoile pas trop de ma vie.
Et donc, du coup, Jean-Yves, tu voulais, toi, nous parler d'une augmentation faramineuse.
Oui, une petite. Alors, c'est une très courte info. Hein. C'est les bénéfices des entreprises du CAC 40 en forte hausse en 2017. Et là, le peuple fait « Ouais,
ouais !» Plein d'argent pour nous, ça veut dire.
Non, plein de miettes peut-être, mais pas d'argent. N'oublie pas ce qu'on a dit avant.
Les premiers de cordée.
Et donc, effectivement, le bénéfice net cumulé des sociétés du CAC 40 atteint 94,37 milliards d'euros en 2017.
On va juste rappeler ce qu'est un bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qui reste quand vous avez tout payé.
Oui, ben justement, ouais. Tu peux le dire après parce que j'annonce les chiffres d'affaires. Et donc, dans tout ça, hein, c'est l'automobile, l'aéronautique et le luxe qui sont particulièrement en forme. Bon, moi je prends pas l'avion, j'ai pas une grosse bagnole et des trucs de luxe, je peux pas en acheter. Donc c'est pas moi qui dois, qui dois nourrir cette croissance.
Et pourtant, si je prends tes chiffres, ça veut dire que chaque être humain sur Terre a donné entre 12 et 13 euros de bénéfices aux entreprises du CAC 40.
Ouais.
ça, c'est quand on achetait des Rolex à cause de Sarko.
Oui, c'est vrai, quand on ne voulait pas rater nos vies. Et donc, bah, les entreprises donc, du CAC 40 hein, ont dégagé près de 95 milliards, comme je vous le disais, en bénéfices nets hein, en 2017. Et c'est donc un chiffre en forte progression comparé à 2016. Allez, je vous donne dans le mille. Combien vous pensez que ça a augmenté?
Oh, 25%.
Ouais, toi, tu le savais. Toi. Ça ment.
Quel tricheur.
Oui, c'est un tricheur.
C'est complètement un tricheur.
Ouais, total.
Il falsifie les choses. Donc, cela représente effectivement une hausse de 24,1% par rapport au bénéfice total de 76 milliards d'euros qu'avaient dégagé les entreprises du CAC 40, hein, donc l'année dernière.
Donc, ça veut dire à peu près ce qu'on leur a redonné en crédit impôt recherche et en enlevant l'impôt sur les sociétés.
Tu voudrais dire que politiquement, on favorise les grosses entreprises?
Oui, je le dis.
Alors, comme ça. Tu t'engages sur un terrain un petit peu...
Glissant-glissant.
Glissant-glissant, oui, tout à fait.
T'es bien attaché. Alors, le chiffre d'affaires, bah, justement, on t'en parlait avant, hein, c'est donc cette différence qu'il y a entre le chiffre d'affaires, etc., et arriver aux bénéfices. Donc, bah, les chiffres d'affaires de ces derniers a cru de 5,2%. À 1317 milliards d'euros.
Ce qui veut quand même dire qu'on a pressuré à mort les salariés et compagnie pour arriver à ce que le bénéfice, lui, augmente de 25%.
Tu comprends rien au travail. Vraiment, je suis obligé de me révolter. Ils ont juste optimisé leurs coûts.
Ah, c'est ça, optimiser.
C'est ça, c'est optimiser de manière générale les coûts. Et bon, bah, peut-être des fois, ça, sur les salariés, tout ça. Ouais. Mais non, mais détail.
Peut-être même souvent.
Allez, régulièrement.
On s'y risque. On va dire souvent sur le dos des salariés. Et donc c'est rigolo parce qu'il y a un analyste d'une banque dont je ne vais pas citer le nom parce qu'on s'en fout qui juge l'année 2017 exceptionnelle,
bon,
mais pas record.
C'est un bon cru, quoi.
Donc, on peut encore arriver à mieux. Ouais. Et alors, pour qui sont donc c'est les plus gros bénéfices? Au classement des bénéfices arrive en tête. Attention, avec 8,4 milliards d'euros, Sanofi. Alors, on peut rappeler que Sanofi, au départ, ils sont censés faire des médicaments. Je savais pas qu'en faisant des médicaments, tu pouvais dégager une si grosse marge. Bon.
Avec tous ces clients, patients, enfin tous les gens.
C'est ça. Attention, en deuxième, on a qui? Surprise! BNP Paribas, une banque. Vous savez, celle qu'on a renflouée il y a quelques années avec des milliards et des dizaines de milliers de milliards. Eh ben,
ils ont pas
remboursé.
Ah, j'ai posé la question.
Non, ils ont jamais remboursé.
J'étais passé au travers de l'info, on sait jamais. Ils étaient gentils à un moment, j'étais pas au courant.
Tu es naïf, Stan.
Oui,
donc, BNP Paribas, c'est 7,9 milliards hein, de BNF. Autant dire une broutille. En troisième, nous avons ceux qui sont là, et grâce à eux, vraiment, heureusement, on pollue moins, bah, c'est Total, avec 7,7 milliards d'euros. C'est vachement cool. Et tiens, en quatrième, on a une assurance, AXA, 6,2 milliards d'euros. C'est sympa, l'assurance.
AXA, qui d'ailleurs est dans le comité de réflexion autour de la sécurité sociale. Ça devrait vous inquiéter, ça.
Oh, je pense que ça doit nous inquiéter, effectivement.
Enfin, moi, ça m'inquiète, j'espère que vous aussi.
Et en dernier, on a LVMH qui pointe seulement à 5,1 milliards.
Oui.
Petit joueur, j'ai envie de dire.
Oui, mais son patron est la quatrième fortune mondiale maintenant. Ah, ah, ah.
Même s'il est un peu plus tout seul, lui. Par rapport aux moins d'actionnaires, celui-là un peu plus tout seul. Donc lui, bon, ça lui va. Bon, après, combien ça. 4 et quelques. Bon, ça va.
Ça va.
Franchement, ça va pour un seul homme.
Et donc, monsieur Bernard A.
Mais c'est ça. Et donc, les secteurs les plus performants hein, donc, en la matière sont les finances, avec presque 21 milliards.
C'est
l'énergie, ensuite, avec 13,9 milliards. Suivi de l'automobile, avec 9,6 milliards. Et enfin, le luxe. Et alors, ça, c'est aussi assez magnifique. C'est l'aéronautique, pardon. C'est hautement propulsé, disent les journalistes. Les
c'est
bénéfices.
Jeu de mots. L'aéronautique qui se propulse.
Les bénéfices nets de Safran et Airbus ont augmenté respectivement de 151% et 188,7%.
C'est beau.
Ouais. J'aimerais bien une année gagner 180% de plus que l'année d'avant. Mm-hmm. Mais ça n'arrivera jamais.
Et ce qui est vrai, c'est que dans le même temps, les salaires, globalement, au niveau de la zone euro, ont perdu 0,9%.
C'est bizarre ça.
L'année dernière.
On dirait qu'il y a un transfert des richesses.
C'est dingue, hein.
C'est vraiment dingue.
Moi je verrais, j'irais, ça s'appellerait le capitalisme. Mais
c'est ça.
On m'a dit ça une fois et j'ai du mal à y croire, quoi.
Et donc, c'est un peu l'idée de ma fin de ce sujet. C'est à l'heure de la chasse aux fraudeurs, de la dénonciation, hein, des chômeurs et des chômeuses qui ont trop longtemps du chômage, qui ont trop ceci, trop cela, de la diminution des retraites. Je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler un petit peu. Du manque, des manques de moyens à l'hôpital. Vous en avez peut-être aussi entendu parler, hein, pas mal de gens qui crèvent sur des brancards maintenant dans les hôpitaux.
Ça commence à se voir.
C'est ça, ça commence à se voir. Dans les EHPAD aussi, on en a déjà parlé ici aussi. Pour l'éducation, c'est à peu près pareil. Hein, la diminution des APL aussi, on peut s'en souvenir. Et ben donc on peut quand même se rendre compte que bizarrement, du pognon se fait. Effectivement, c'est, je reviens sur ce que tu disais avant, c'est que politiquement, ça doit être quand même être calculé. C'est-à-dire qu'on a un président ni de gauche ni de droite, mais qui quand même, lui et bien ceux qui étaient avant, hein, ont quand même une forme de logiciel de base, c'est-à-dire qu'il nie la lutte de classe, et pourtant...
Non, il la nie pas, il la mène, mais pour les riches.
Ah, il la nie souvent, hein. Oui, il y en a quand même beaucoup qui disent la lutte des classes,
c'est
un truc du siècle passé. Donc, à un moment donné, il nie la lutte des classes, et pourtant, c'est marrant, dans leur neutralité absolument pas bourgeoise, eh ben tiens, c'est quand même toujours les patrons qui s'en sortent mieux. Alors moi, auditeur, auditrice, si tu as une idée de ce qui pourrait être le fruit de toutes ces choses-là, n'hésite pas à nous envoyer un mail, parce que nous, on est perdus, quoi. On se dit, on a un président ni de gauche, ni de droite, parce que quand même, vous savez, tout ça, c'est un peu du jeu du passé. Et moi, j'ai l'impression que, par contre, il y a un truc du passé qui s'appelle lutte des classes, qu'on fait croire que c'est du passé et qui est quand même toujours encore actuel, et je pense que c'est à nous, progressistes et autres révolutionnaires, de réactiver fortement cette chose-là, parce que faudrait pas qu'on croit que c'est juste une lubie ou une vue de l'esprit. Ça existe dans les faits, dans les actes. On a absolument tout qui nous donne clairement le fait que tout ça existe. La lutte des classes existe, et c'est les bourgeois qui la gagnent comme depuis des siècles et des siècles. Je vais pas le dire. et donc voilà. Donc,
on a eu peur.
Donc j'ai envie de dire, pour reprendre le titre d'une BD, tue ton patron. Et après on pourra passer au président, au gouvernant, à nos états et à tout ça, pour peut-être un jour arriver à l'anarchie. Enfin bon, ça n'engage que moi, hein, mes chéris, attention, je
précise. Oui, c'est bien parti, ça.
Oui, bien évidemment. Vous vouliez rajouter des choses, peut-être ?
Oui, moi je voulais juste dire, j'avais essayé de faire une chronique où j'avais oublié le début de ma chronique, personne ne comprenait rien. Mais
je me rappelle, Jean-Yves, t'es regardé avec ses grands yeux tout le long en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ?
J'avais perdu le début, le premier paragraphe. Et en fait, c'était ce qu'il soulignait, c'est-à-dire que la politique mondiale aujourd'hui est au même rythme faite en fait pour les multinationales. Et quand au final, on se rend compte que, là on le voit avec ce que tu présentes, mais il ne faut pas oublier que dans le même temps, la bourse américaine, le Nikkei au Japon, les bourses, la bourse de Dubaï ont subi exactement les mêmes progressions. C'est-à-dire que c'est pas juste en France, c'est-à-dire que partout dans le monde, les multinationales et ceux qui les possèdent ont fait un max de blé cette année sur le dos du reste du peuple, quoi. Enfin, des peuples, parce que il arrive un moment où faut pas se leurrer. Cet argent qui n'est pas réinjecté quelque part, forcément, ça va manquer. Ça manque. Et dans le même temps, et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est comme ça qu'on a des baisses d'espérance de vie. C'est comme ça qu'en fait, on a des gens qui peuvent pas se soigner. C'est comme ça. Et ça, c'est juste lié à ça. Et dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on est en train d'enlever l'impôt sur les sociétés, on est en train d'enlever l'impôt sur la fortune, on est en train d'enlever l'impôt sur les héritages, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est eux qu'on privilégie. C'est pas nous. J'ai à vous arrêter de se leurrer, quoi. Et quand je vois des gens qui disent, par exemple, c'est dégueulasse qu'en France, l'État prenne tant de pourcents des héritages, machin. Oui, sauf qu'en fait, au départ, quand vous remontez à l'origine de cette idée-là et de cette loi-là, c'était surtout pour permettre que les grandes fortunes ne restent pas des grandes fortunes. Or, on voit bien aujourd'hui que les enfants d'eux restent des grandes fortunes parce que tout est sorti de l'héritage, de l'impôt sur la fortune et tout ça. Et qu'au final, ça maintient une caste au pouvoir, quoi. Voilà.
Je vais me permettre une toute petite parenthèse d'un des membres du 440 que je ne citerai pas, qui, même s'il fait une très mauvaise année, très compliquée, on se retrouve quand même avec des salariés qui vont faire grève le premier week-end de Pâques, enfin le samedi de Pâques justement. Donc là, vous peut-être commencez à savoir de qui je parle. Qui se retrouvent avec les minima qu'on peut leur reverser chaque année en part d'entreprise, enfin en intéressement, alors que les actionnaires vont se reverser 7 millions de dividendes, etc. Et donc ça passe par des trafics sur les chiffres, etc. Donc même quand on vous annonce des chiffres et des résultats qui sont mauvais, souvent celui qui trinque le plus à la fin, ça reste le salarié et pas du tout l'actionnaire ou tous ceux qui ont de l'argent autour.
C'est exactement ça. Et justement, enfin, c'est effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que c'est un truc mondial et que c'est pas là. Attention,
c'est pas un complot.
C'est
hein.
ce que j'allais dire. C'était justement c'est ce que j'allais dire. On parle pas là de nouvel ordre mondial, je sais pas quoi. Non, c'est juste une classe qui s'organise. C'est-à-dire, bah, les bourgeois se rencontrent dans différents sommets, etc. Ils se disent juste, tiens, comment on peut faire mieux pour nous et nos amis. Il y a absolument aucun complot. La seule erreur qu'on fait, c'est nous de toujours croire à leurs conneries qui nous disent depuis des années la lutte des classes, c'est un truc du passé. Non, 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 c'est actuel, c'est une réalité. À nous de nous organiser, de nous réorganiser et qu'on les dégage, bordel, quoi. Mais que ça soit en France, aux États-Unis, partout, ça doit être une révolution mondiale, en fait. Ouais, moi tout seul de Lyon, j'appelle à la révolution mondiale. Mais non, mais enfin voilà, c'est, je pense que vraiment, sinon, on ne va toujours que dans des pseudo-trucs où on va gagner un petit peu, mais à l'échelle mondiale et donc à l'échelle de notre humanité, eh ben, c'est toujours le même jeu, quoi, hein, depuis des siècles.
Il faut y aller, quoi.
C'est ça. Allez, un petit peu de zik avant les brèves.
Come
Je crois qu'on est
ah oui, non mais c'est moi qui ai repris l'antenne. Excusez-moi, Radio Canu, la causerie, et quand c'est Stan, c'est n'importe quoi. Donc, c'est moi, Stan, en fait. Donc, on vient de s'écouter. Et en plus, le pire, c'est que j'ai pas du tout noté, donc j'en sais rien, en fait. C'est moi qui ai proposé le titre, mais.
The Death South.
Alors, non, mais complètement. Alors, je faisais mouvement avec les lèvres, mais les auditeurs ont pas vu que c'était pas moi qui parlais. En fait.
Ah ouais, ok.
Ouais.
Mais t'arrives pas à me relire.
Bah, je sais pas, tu m'as pas tendu ton. The Death of. Mais après, je ne vois pas ce que tu écris.
Ok, et ben le titre.
In
c'est...
hell, I will be in good company.
Voilà. Et ben c'est un truc que j'aime bien. J'ai trouvé ça cool. Et voilà. Et c'est tout. Et vous êtes sur la causerie Radio Canu. Wesh. Si, c'est la famille.
Et ben on termine avec des brèves, mais c'est formidable, on est dans les temps, mais c'est.
Wow. Non, parce que si.
Non, après, il y a une musique, on est en retard.
Mais allons-y.
Allez, on commence. Alors, les brèves. Donc, toute la semaine, hein, ça c'est la permanence d'aide aux travailleurs sans papier qui a lieu donc tous les jours de 10h à midi à l'Union départementale CGT qui se trouve au 215 cours Lafayette dans le 6e arrondissement.
Lundi 19 mars, il y a toujours des cours de langue à destination des migrantes et migrants. 18h à 20h au local de la Plume Noire, 8 rue Diderot dans le premier.
Et comme tous les lundis, la permanence de soutien aux sans-papiers et à leurs proches, 18h30 à 20h à La Lutine, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e.
On passe au mardi 20 mars, que d'actualité. Dans le cadre de la mobilisation Jamais sans toi, TOIT, qui exige des logements pour tous les élèves des écoles de Lyon, rassemblement à l'école Berthelot, c'est 19 avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, et c'est donc un goûter le mardi donc 20 mars de 16h15 à 17h45.
Toujours le mardi 20 mars, c'est la suite des Cafés des Femmes de l'association Pluriel. Alors cette fois-ci, c'est à 20h à la MJC de L'Arbrel, 4 rue du docteur Michel, à L'Arbrel, voilà.
Le mercredi 21 mars, donc nous avons une série de discussions autour de la justice, la connaître, y faire face, vivre sans, du 21 au 23 mars, 10 ans après Tarnec. Qu'est-ce qu'on a en face ? Antiterrorisme, justice administrative et notes blanches, en présence de J.C. Berlioz, membre du syndicat de la magistrature, de J.P. Folg, chercheur en centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, et Mademoiselle Crusoe.
Non, c'est maître.
Oh.
Je crois que c'est maître. Ouais.
D'accord. Donc, maître Crusoe, avocat au barreau de Paris et membre du syndicat des avocats de France. C'est le mercredi donc 21 mars à 18h30 à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, Lyon 7e.
On continue donc et on passe au jeudi 22 mars. Ah bah tiens, moi je les ai tous. C'est dans le cadre de la mobilisation Toujours Jamais Sans Toi qui exige toujours des logements pour tous les élèves des écoles de Lyon. Et donc là, il y a deux rendez-vous en fait. À l'école Masno, dans le 3e arrondissement, hein, c'est au 74 de la rue Masno. Et c'est donc goûter solidaire le jeudi 22 mars à partir de 16h30. Et l'autre goûter qui a lieu à partir de 16h30, et ben c'est à l'école Jouot, 34 rue Léon Jouot, dans le 3e arrondissement.
Alors, toujours dans la série de discussions autour de la justice, comment se défendre depuis les mouvements ? Comment penser la répression comme possibilité d'affirmation politique ? C'est en présence de Guillaume Guidon, qui est auteur de la thèse de la défense révolutionnaire, une lecture transversale des années 70 italiennes à travers le prisme du Socorso Rosso, et des membres du Forum civique européen. Socorso Rosso, c'est le Secours Rouge, pardon. Voilà. Et c'est jeudi 22 mars, 18h30, à l'Atelier des Canulars, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
Le vendredi 23 mars, et toujours dans la série discussions autour de la justice, on est sur la discussion Abolir la police, se passer de justice, quelle piste ? En présence de camarades de la ZAD, prenant part au cycle des 12, processus de médiation des conflits sur zone. Le vendredi donc 23 mars, à 18h30, à l'Amicale, 31 rue Sébastien Griffe, Lyon 7e, et c'est suivi d'un bar de soutien.
Eh bien, on reste au vendredi 23 mars toujours. Il y a un concert de soutien aux grévistes de la Sauvegarde 69. Alors, c'est le collectif de salariés du foyer d'accueil médicalisé de l'échappée de la Sauvegarde 69 qui poursuit la grève reconductible depuis le 2 mars en soutien à la caisse de grève. Le collectif organise un concert au local de la CNT qui se trouve au 44 rue de la rue Burdeau. Et c'est donc vendredi 23 mars à partir de 21h.
Et on y retrouve quelqu'un qu'on entend sur Canu régulièrement.
C'est ça, normalement on entend King Milouz, je crois, et d'autres encore.
Le samedi 24 mars, alors attention, accrochez-vous, parce que c'est long. Il y a une conférence débat sur la rétention administrative dans le parcours migratoire. C'est la présentation du rapport d'observation des audiences du juge des libertés et de la détention. C'est un historique des centres de rétention administrative avec des témoignages et surtout un retour sur le projet de loi Asile et Immigration. C'est dans le cadre des États généraux des migrations. Le Comité interassociatif de défense des droits des étrangers, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, ROSF, Médecins sans frontières, amoureux du haut banc public, en collaboration avec l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, la Commission étrangers du barreau de Lyon et le DU droits des étrangers de l'Université Lyon 2, vous invitent à une conférence débat sur la rétention administrative dans le parcours migratoire. État des lieux et projet de loi. Elle se déroulera donc le samedi 24 mars 2018 de 9h30 à midi à l'Université Lyon 2, amphithéâtre Jaboulet, au 86 rue Pasteur, dans le deuxième.
Le dimanche 25 mars, une invitation par le collectif Météorite à une projection de « La classe ouvrière va au paradis ». C'est un film de Elio Petri qui a été fait en 1971 à 16h au centre hospitalier Le Vignatier, 95 boulevard Pinel, Bron. Donc c'est précédé d'un goûter dans le parc à partir de 15h et c'est en collaboration avec la ferme du Vignatier. C'est un prix libre.
Et on termine le dimanche 25, c'était long cette semaine les brèves, hein. Par représentation débat, sur la prison, autour de la pièce Pisser dans l'herbe. C'est écrite donc en collaboration avec Christine Ribailly, une bergère détenue pendant 4 ans. La pièce est composée de lettres de Philippe Lawel, d'Émilie D et du livre Pourquoi faudrait-il punir de Catherine Baker. La pièce dresse un tableau qui interroge la justice, l'administration pénitentiaire et les modes répressifs préconisés depuis toujours. Donc il y a différentes représentations, hein. Il y en a une le dimanche donc 25 mars à 19h à l'Arche de Noé, 3 rue Félissant dans le 7e arrondissement. Alors c'est une date qui est organisée par La Petite Cuillère, hein, c'est une émission de Radio Canu, avec bouffe vegan à prix libre. Si vous êtes sans gluten, je pense que vous pouvez y aller aussi. Lundi 26 mars à 18h30 à Lyon 2, campus Porte des Alpes, dans la salle polyvalente. Et ça c'est une date qui est organisée par le Génépi et l'OIP, c'est l'Observatoire International des Prisons. Et la bouffe est à prix libre aussi. Et donc mardi 27 mars, c'est à la MJC à 20h, MJC Saint-Rambert-Île-Barbe, dans le 9e arrondissement. C'est aussi une date organisée par le Génépi et l'OIP. Voilà pour toutes les brèves. Et évidemment, dimanche, vous retrouverez la causerie. On sera là à partir de 22h oui. Sur les ondes de Radio Canu.
Oui.
Et ben, je crois qu'on a tout fait. On a tout dit.
Mais avec quoi qu'on se quitte ?
Mais oui.
Mais oui, qu'est-ce que c'est que quoi ?
Dis-nous.
Ben, on se quitte avec 22h38 de Mansfield Tia.
Mais on est un peu à la bourre, là, non ?
Ben ouais. Fallait vous presser un peu.
Quelle est mauvaise, cette blague.
Et t'as bien... dit qu'on était à l'heure en plus tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, mais pas. Enfin bon, c'est compliqué tout ça, tu sais.
C'est dimanche soir. Allez.
Et ben, on vous souhaite une bonne semaine.
Bon courage.
Des bisous.
Des bisous à toutes et à tous.
Et à la semaine prochaine.
Allez, un petit câlin, parce qu'il va faire froid en plus.
C'est vrai.
Salut.
Ciao. Ciao.